Merci beaucoup. Je vais inviter. Vous allez nous laisser le micro.
Je vous laisse la donner. Jeanne, et je voulais m'excuser auprès de Jeanne et tous les orateurs.
Voilà, donner directement le micro à Jeanne qui va me rejoindre. Jeanne Mérignac, votre collègue au CHU de Strasbourg. Vous êtes Jeanne, psychologue spécialisée en neuropsychologie. Et nous allons parler ensemble de la vie avec la maladie et donc également de la place des aidants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment bien agir? Comment bien se positionner, comment faire face aux difficultés qui vont arriver très certainement. C'est à vous.
Merci beaucoup, merci pour votre présentation. Merci à la Fondation Recherche Alzheimer de m'avoir invitée ici, dans ce beau lieu strasbourgeois. Alors effectivement, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et je travaille aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Okay.
Alors, on va faire la diapositive prochaine. Peut-être que tu peux, Élodie, passer à la suivante ou pas? Hop, on y va. On continue. Encore la suivante.
Et on va demander aujourd'hui de parler de l'accompagnement des aidants. Alors, pour commencer, dans l'autre sens, autant pour moi. Ok. Je vais vous demander de réfléchir dans la salle s'il y a certaines des actions suivantes que vous réalisez pour l'un de vos proches. Est-ce que vous aidez l'un de vos proches à s'habiller ou à faire sa toilette? Est-ce que vous l'aidez pour vous l'accompagner à des rendez-vous médicaux, à organiser les médicaments, à préparer le pilulier de la semaine? Est-ce que vous allez rendre visite à votre proche régulièrement, lui passer des coups de fil plusieurs fois par semaine pour savoir comment il va? Ou bien est-ce que vous l'accompagnez pour les courses? Vous l'aidez à faire les impôts, à s'occuper des papiers administratifs, ou bien vous l'aidez aux tâches ménagères, à lui apporter des plats plusieurs fois par semaine, autre chose. Bref, si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, eh ben vous êtes probablement aidant de l'un de vos proches. Si j'ai commencé la présentation par ça, c'est parce qu'il y a 11 millions d'aidants et d'aidantes en France à l'heure actuelle. Et il faut savoir que 57% d'entre eux ne se reconnaissent pas comme tels. Ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont aidants. Pourquoi ? Parce que souvent on peut entendre que aider c'est naturel et que c'est mon devoir parce que je suis enfant d'eux ou conjoint, conjointe d'eux et que c'est normal que je le fasse pour mon proche. Être aidant, ça nécessite de faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de résistance émotionnelle. Et finalement, c'est un processus d'apprentissage et d'adaptation permanente. S'il y a de plus en plus d'aidants, c'est aussi parce qu'on a une population qui est vieillissante, on en a parlé avant, enfin, Benjamin Crottin vous en a parlé. Et que finalement, lorsqu'on est confronté au vieillissement, à la maladie, à la dépendance, la famille, la cellule familiale ne sait pas toujours comment réagir et comment appréhender ces situations. Alors la définition officielle de l'aidant, de l'aidante, qui a été mise à jour par le gouvernement, enfin sur le site du gouvernement en 2015, on qualifie d'aidant une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, c'est important de le rappeler, pour accomplir toute ou une partie des actes de la, et des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie, en raison de son âge, de la maladie ou d'un handicap. Le mot aidant, je trouve que des fois il est un peu plus parlant quand on emploie le mot en anglais. En anglais on dit caregiver, to care, prendre soin. Je le disais avant, la majorité des aidants sont aidants au sein de la cellule familiale. Vous avez peut-être déjà entendu le terme d'aidant naturel référent, qui là fait référence aux conjoints ou aux enfants qui viennent en aide à leurs proches. Et le fait d'être aidant, ça va aussi être fortement impacté selon notre culture, selon nos représentations. Selon le lieu, selon nos cultures, on n'a pas forcément le même rôle et on n'investit pas forcément de la même manière non plus. Aussi, c'est important de rappeler que le vécu de l'aidant va résonner de manière différente selon l'histoire personnelle de l'aidant, mais aussi de la relation interpersonnelle, de la relation qu'il a avec la personne malade. Et finalement, ça vient vraiment redéfinir les rôles au sein de la famille. Lorsqu'on est conjoint et aidant, ben, on n'est plus que conjoint. Donc ça vient vraiment changer des choses aussi dans la dynamique du couple ou de la famille de manière plus générale. Alors, il y a Fabienne Brugère qui a publié, enfin, qui a publié l'éthique du CARE. Je ne vais pas rentrer longuement dans le modèle qu'elle propose, mais ce qui était important de rappeler aujourd'hui, c'est que, comme je vous le disais, il y a la relation et la qualité de l'attachement entre les relations interpersonnelles qui va venir impacter la manière dont on vient aider notre proche, mais également l'environnement et le contexte culturel. Être aidant, c'est donc se soucier de l'autre, mais aussi faire des choix pour l'autre, accompagner selon les besoins de la vie quotidienne, et care receiving, comment le soin il est perçu par notre proche qui est malade, selon, et est-ce que ça répond ou non aux attentes de la personne. L'aidant, le fait d'être aidant, ça va avoir des répercussions sur la santé psychologique, sur la santé physique. Avec, on entend souvent qu'ils ont un risque accru de douleurs, qu'ils ont plus souvent mal au dos, ou qu'ils vont être plus souvent malades aussi, un risque d'infection. Pourquoi ? Parce qu'on est plus fatigué, donc on est aussi plus à même de développer des problèmes somatiques. Des répercussions sur la vie sociale, avec un éloignement social qui nous est fréquemment rapporté en consultation et qui peut être vraiment source de souffrance. Des répercussions sur la vie professionnelle. Il y a beaucoup d'aidants qui ont une activité professionnelle qui forcément va être impactée aussi. Alors, on va parler un petit peu du concept d'épuisement. L'épuisement, il peut être physique, mental ou émotionnel. Et bien entendu, ces différentes dimensions peuvent s'additionner. Épuisement physique, on va parler de la fatigue corporelle, de la faiblesse. L'épuisement mental, avec des aidants qui peuvent nous rapporter aussi des difficultés. Ils ont l'impression qu'ils ont une plainte de mémoire, des difficultés à se concentrer du fait de leur épuisement, qui n'est pas lié à la maladie d'Alzheimer, mais probablement à un épuisement. Un épuisement émotionnel aussi, lorsqu'on est confronté à un stress chronique. Et le concept de burn-out. Souvent, les deux concepts, épuisement et burn-out, sont un peu mélangés dans la littérature, mais en réalité, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Le burn-out, à la base, ça avait été théorisé par les psychologues dans les années 70, et ça faisait référence à l'épuisement professionnel uniquement. Progressivement, on a entendu parler du burn-out dans la parentalité, avec des parents qui peuvent aussi être épuisés face à des situations... une multiplication de charges mentales, et puis aussi le burn-out dans la situation d'aidance. Pour la situation de l'aidance et du burn-out, on a l'épuisement émotionnel qu'on avait avant, dont j'ai parlé avant, mais aussi le concept de dépersonnalisation qui fait référence à une perte de l'empathie et une diminution du sentiment d'accomplissement personnel. L'impression qu'on ne sert plus à rien et que de toute façon, quoi que je fasse, ça ne changera rien à la situation. Ça va aussi engendrer une baisse de l'estime de soi. Épuisement, burn-out, on entend aussi souvent parler de fardeau ou burden en anglais. Le fardeau de l'aidant, il s'explique par l'ensemble des conséquences physiques, psychologiques, spirituelles et sociales, mais également financière, de l'aide apportée par l'aidant. On a donc une diminution de l'estime de soi, de la qualité de vie, et une augmentation des symptômes dépressifs. Je vais vous parler des facteurs qui influencent l'épuisement. Il y a des facteurs qui sont relatifs à l'aidant, des facteurs sociodémographiques. Les chiffres disent que les femmes sont plus exposées à l'épuisement. Pourquoi ? Souvent parce qu'elles cumulent plusieurs situations d'aidance. Elles sont aidantes de, par exemple, leurs parents malades, mais elles sont également très investies dans la parentalité. Elles sont parfois encore en activité professionnelle. Donc, souvent, elles sont plus à même de cumuler plein de choses et de s'investir différemment dans les tâches que les hommes. Des facteurs qui sont relatifs à la personne aidée, selon la maladie, selon l'évolution, le stade de la maladie, mais aussi selon le degré d'autonomie de la personne et la personnalité antérieure, aussi selon les symptômes psychocomportementaux ou les troubles du comportement dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, selon la relation entre le couple aidant-aidé, si la personne elle habite avec la personne malade, ça risque aussi d'être plus compliqué pour elle, d'être 24 heures sur 24 dans cette situation d'aidance, dans cette surveillance permanente. Voilà. Alors, quels sont les signes, en tant que soignant notamment, mais pas que, pour repérer le moment où la personne qu'on rencontre peut être épuisée ? Les situations où les personnes vous rapportent qu'ils souffrent de la solitude, qu'ils se rendent compte qu'ils ont une relation exclusive avec le patient, avec leurs proches malades. Parfois, ils ne s'en plaignent pas. Hein. Mais aussi des situations où on sent que la famille elle est très méfiante envers les soignants. Elle se méfie des examens, ou alors elle demande beaucoup, beaucoup d'examens. Elle demande beaucoup de traitements, elle veut des explications sur tout. Ça montre aussi de l'inquiétude. Mais parfois, il faut aussi se dire que ça peut être signe d'un épuisement. Il y a également fréquemment la question de la mort qui peut venir en consultation. Et puis, on a Sekaldi qui a parlé du vécu psychique d'ambivalence de l'aidant, avec des aidants qui oscillent entre des moments d'apaisement, de colère, vouloir comprendre, ou plutôt vouloir être dans la révolte, les questionnements de « est-ce que je ferais mieux de rester ?» ou « est-ce que je ferais mieux de partir ?» L'ambivalence de l'aidant, elle est très fréquente. Alors, je vous ai rapporté quelques propos d'aidants. J'entends souvent cette phrase-là. « Il y a pire, moi je connais monsieur nanana, bah, il a deux de ses parents qui sont malades. » Il y a le « je ne fais jamais assez, je ferai jamais assez bien pour mon proche ». Et puis il y a le « quelquefois c'est difficile, c'est vraiment difficile de rester calme, je sais que je ne suis pas toujours patiente ». Et cette dame-là, elle m'avait dit en consultation que finalement elle essaye de rester positive et la solution qu'elle a trouvée, c'est d'essayer de mettre des fleurs, d'acheter des bouquets et d'essayer d'égayer sa maison pour remettre de la joie dans son domicile. Dans les propos-là ou dans d'autres propos qu'on entend fréquemment, on entend souvent de la culpabilité et de la honte dans le discours. La culpabilité parce qu'on compare nos actions avec nos valeurs morales. Il y a aussi la culpabilité liée aux promesses qu'on a pu faire avant. Je lui avais promis, jamais il ira en EHPAD. Donc non, la situation de l'EHPAD, vous pouvez tout de suite l'arrêter la liste, on ne l'envisagera pas. C'est souvent un combat moral intérieur entre justement toutes nos promesses, tout ce qu'on s'était dit, et finalement, eh ben, on n'avait jamais imaginé que la situation allait en arriver là. Et comment je vais faire ? Est-ce que je vais pouvoir accepter de l'aide finalement ? Il y a aussi la question de la honte, honte de ne pas y arriver seule, honte de l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, ou bien de la honte lorsqu'on est en société et qu'on se rend compte qu'on a des regards en coin de certaines personnes qui observent parce que le comportement est dérangeant par rapport à la situation dans laquelle on est. Mais dérangeant pour qui ? Dérangeant pour la personne elle-même qui est malade ou dérangeant pour les autres parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe ? Finalement, d'où l'importance d'accompagner à déculpabiliser, faire preuve d'empathie, rechercher les éléments déclencheurs de cette culpabilité, de cette honte, d'accepter ses émotions et de travailler avec les aidants.
Dans le sondage qu'on avait fait, la Fondation Recherche Alzheimer et Notre Temps, un pourcentage non négligeable d'aidants disaient qu'ils avaient peur de déraper, voire de devenir maltraitants à leur tour. C'est des choses que vous constatez aussi dans vos consultations ?
Oui, c'est ce qu'on me rapporte souvent. Peur de déraper parce qu'ils sentent qu'ils sont à bout et qu'ils n'ont plus assez de patience, plus les ressources nécessaires.
Et c'est tellement humain. Et
tout à fait, tout à fait. Et déjà de repérer ça, enfin de sentir qu'on risque de déraper, c'est déjà le premier pas. D'où l'importance d'identifier les besoins de l'aidant. Chaque personne a des besoins différents, des attentes différentes, que ce soit les besoins de l'aidante et les besoins de la patiente ou du patient d'ailleurs. Les besoins des aidants et les besoins des patients ne sont pas les mêmes non plus, ne sont pas toujours en adéquation. Parfois, les besoins des aidants sont simplement d'avoir besoin d'un espace d'écoute, de pouvoir partager leurs ressentis, leurs émotions, leur ambivalence aussi, de déposer ce sentiment d'injustice qu'ils ont l'impression de vivre au quotidien. Après tout ce que j'ai fait pour cette personne, comment c'est possible qu'il soit comme ça avec moi ? Et finalement, rien que de déposer, d'avoir un espace d'écoute, ça peut déjà être un réel apaisement. De trouver des stratégies pour faire face. Souvent, on nous demande qu'est-ce que je fais quand mon mari me demande d'aller chez sa mère alors que sa mère, elle est morte depuis 20 ans. Il le sait pourtant, il sait où elle est, il connaît l'endroit du cimetière. Qu'est-ce que je fais dans cette situation ? ou bien face à des symptômes de psychocomportementaux, face à des réactions d'accès de colère. Identifier et connaître les ressources ici, les ressources internes et externes de l'aidant, et de les valoriser. Besoin d'avoir des informations, des connaissances sur la maladie, sur l'évolution, sur les traitements, sur les symptômes, de comprendre les symptômes. Et un besoin fondamental pour tous les aidants, je crois, c'est d'être vraiment reconnu acteur et actrice, personne de confiance et partenaire de soins. Le malade d'Alzheimer n'existe pas vraiment tout seul, il est toujours accompagné, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour, que ce soit l'équipe pluriprofessionnelle lorsqu'il est hospitalisé ou en structure, mais aussi sa famille, ses proches, ses amis, toutes les personnes qui l'accompagnent. Il va être aussi important d'identifier les limites dans la relation d'aide. On disait que les besoins étaient différents pour chaque aidant et aidante, mais les limites sont aussi différentes à chaque personne. Quand il y a plusieurs enfants dans une fratrie, parfois on se redispatche un peu les rôles parce qu'on n'a pas les mêmes limites. L'importance de garder sa place de conjoint ou d'enfant, qui n'est pas toujours facile à garder, et de ne pas tomber dans la place uniquement de soignant et d'aidant. Et réfléchir à l'introduction d'une aidance professionnelle, mais à quel moment ? Anticiper l'aidance professionnelle avant l'épuisement. Faire confiance à un tiers, on sait très bien que c'est pas toujours facile, qu'on le disait avant, hein, on doit aussi souvent travailler la culpabilité de devoir passer le relais, c'est que j'arrivais pas à le faire moi-même, toute seule, ça peut être parfois compliqué, ou bien parfois ça peut être vécu comme un réel soulagement. Et mettre en place une aidance professionnelle peut permettre de partager des moments de qualité, de joie, et d'éviter les situations, par exemple du matin, de l'habillage et de la toilette, qui sont des situations où tous les matins, il y a de l'agressivité à la toilette. Introduire une aidance professionnelle, on sait que c'est aussi compliqué au niveau des papiers, même pour les aidants. On a souvent le problème du labyrinthe administratif pour remplir tous les dossiers d'aide, d'APA, de tout ça. Donc savoir aussi accompagner les aidants à ce moment-là, en tant que professionnel. Je les disais aussi souvent, pour l'instant, je peux encore. Quand on sent en consultation que les aidants n'en peuvent plus et qu'on leur propose de mettre en place des aides, non, mais vous inquiétez pas, pour l'instant, je peux encore. Oui, je peux encore, mais je peux encore jusqu'à ce que ça explose vraiment. Donc, quand on vous parle un peu des aides à mettre en place et des possibilités, voilà, souvent on en parle plusieurs fois en consultation jusqu'à ce que les proches puissent accepter de passer le relais. Des stratégies pour les aidants, alors. La psychoéducation, c'est expliquer en gros les symptômes de la maladie, les difficultés en vie quotidienne, mettre des mots sur tout ça, expliquer le fonctionnement de la personne. Récemment, les études, elles ont vraiment montré que c'est l'intervention non médicamenteuse qui marche le mieux, qui permet donc de réduire le fardeau de l'aidant, l'épuisement de l'aidant, mais aussi de réduire les symptômes psychocomportementaux, les troubles du comportement. Tous les dispositifs d'aide aux aidants qui existent, on montre aussi leur efficacité sur le bien-être, sur la qualité de vie, la diminution du stress, et également un maintien à domicile qui va être plus long, ce qui est non négligeable aussi. La pleine conscience, il y a des études qui ont montré que la thérapie pleine conscience montre une efficacité, notamment chez les aidants, mais professionnels cette fois-ci. Et le soutien émotionnel et le soutien de l'entourage, éviter l'isolement, parler de la maladie avec vos amis, avec vos familles. D'autres stratégies pour les patients cette fois. Des stratégies qui sont centrées sur la personne, s'adapter à la personne à chaque moment de l'interaction. Une stratégie qui fonctionne pour un patient ne fonctionnera pas pour un autre, et peut-être qu'une stratégie le matin ne fonctionnera pas non plus l'après-midi. De se centrer sur les activités. Alors, j'ai cité ici l'approche Montessori, mais c'est un peu rappeler qu'on est des êtres humains, on a tous besoin d'activités dans notre vie. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit personnes âgées, si on devait rester assis toute la journée sur une chaise sans rien faire, je crois que tout le monde dans cette salle en aurait marre au bout d'un moment. Ça serait compliqué pour tout le monde. Donc finalement, au lieu de parler des troubles, des choses qui ne vont pas, de toute la personne, des incapacités de la personne, est-ce qu'elle n'arrive plus à faire comme avant, parlons des capacités. Elle peut encore faire des choses qui lui font plaisir, des activités qui ont du sens pour elle, en adaptant l'activité aux capacités de la personne.
Y compris des activités que la personne n'avait jamais faites avant. Vous allez voir tout à l'heure que nous allons avoir une expérience tout à fait passionnante autour du ping-pong. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est édifiant tout ce qu'on peut faire.
Ou l'escalade qui avait été présentée ce matin pour ceux qui étaient là ce matin. Pareil, dans le même esprit. Et laisser du choix aussi, l'importance de donner du choix. C'est pas parce que la personne, elle présente des troubles cognitifs à un stade avancé qu'elle n'est plus capable de choisir et de dire ce qui est important pour elle. Adapter l'environnement, des aides externes, des affichages, et bien sûr penser au répit, alors avec la mise en place de professionnels au domicile, ou bien du répit comme de l'accueil de jour, l'hébergement temporaire, on a parlé avant des équipes spécialisées Alzheimer, tout ça, ça va être aussi des moments de répit pour l'aidant, et des moments de stimulation et d'activité pour le patient. On sait aussi que le répit, c'est, comme je le disais, hein, je vois bien que c'est pas simple à mettre en place, avec les propos de ce monsieur qui m'avait dit à propos de sa femme que ça allait être compliqué pour lui d'accepter l'accueil de jour parce que c'est un couple qui a toujours fonctionné de manière fusionnelle, ils ont toujours tout fait ensemble, ils n'étaient jamais séparés. Donc là, rien que d'envisager que son épouse allait partir une journée du matin à 9h30 et revenir jusqu'à 16h, c'était presque impossible pour lui. Il me disait, mais je sais pas ce que je vais faire de ma journée sans ma femme. Voilà. Alors j'arrive doucement au bout de ma présentation, je voulais vous proposer des ressources. La Fondation Recherche Alzheimer a créé un super guide à destination des aidants, que je vous recommande vivement. Il y a tous les sites internet, les sites des fondations qui sont très très bien faits, qui sont des sources d'informations très importantes, avec la Fondation Recherche Alzheimer qui a même un site spécifique uniquement pour les aidants, très bien fait aussi. Les sites des associations... Il existe des numéros d'écoute anonyme avec un numéro spécifique à Alzheimer ou l'association avec nos proches, où c'est des anciens aidants qui répondent au téléphone. C'est tous les jours de la semaine, je crois que c'est du 7h-22h, ou voilà, des plages horaires qui sont assez larges.
Eh ben, plus complexe ça, je crois que ce n'était pas possible. Un grand, grand merci. D'ailleurs, on n'a pas énormément de questions.